Tech & Co, le grand live du numérique avec François Sorel.
Et Romain Lucan est avec nous. Bonsoir Romain.
Bonsoir François.
Vous êtes le président et cofondateur de Share MySpace, une société qui est dédiée en fait à la surveillance de l'espace, qui existe depuis quelques années, hein, puisque vous avez été créé en 2017. Et Share MySpace, votre job à vous, eh bien, c'est de scruter ce qu'on a au-dessus de nos têtes et les débris spatiaux, parce que on va peut-être commencer par ça. On lance depuis des satellites depuis les années 50-60, donc ça commence à faire pas mal de temps. Et ces satellites, qu'est-ce qu'ils font après quand ils marchent plus? Soit ils désintègrent, soit ils restent des bouts un peu partout qui se baladent. Et en haut, ça commence à être assez... le nombre de débris commence à être assez important.
Oui, tout à fait. Le nombre de débris a augmenté de manière drastique depuis les années 70-80. Aujourd'hui, il y a plus de 36 000 débris en orbite, toute taille au-dessus de 10 cm, plus de 1 million de plus de 1 cm. Donc il y a toute une granularité d'objets dans l'espace qui voyagent à des vitesses qui sont les vitesses orbitales, c'est-à-dire que chaque objet porte en lui une fraction de l'énergie cinétique d'une fusée.
Oui,
donc vous imaginez un petit peu l'énergie cinétique et l'impact que ça peut avoir sur des véhicules spatiaux. Donc 1 million d'objets, dont seulement environ 30 000 sont suivis aujourd'hui par les services gouvernementaux et essentiellement les services américains.
1 million d'objets, ça veut dire que finalement c'est quoi? C'est miraculeux qu'il n'y ait pas plus d'accidents spatiaux aujourd'hui? Ou est-ce qu'on arrive quand même grâce à la technologie à éviter ces débris?
Alors, il y a
parce
beaucoup...
que c'est vrai qu'on lance énormément de satellites de toute taille, et il est rare d'entendre que un satellite a été percuté par un débris spatial. Comment on arrive aujourd'hui à gérer tout ça?
Il est rare qu'on apprenne et qu'on découvre qu'un satellite a été percuté par un débris spatial, parce qu'on ignore l'existence même de la plupart des débris spatiaux. On ignore leur position. Donc on sait statistiquement qu'ils sont dans l'espace, mais lorsqu'une anomalie est identifiée à bord d'un satellite, il est impossible de dire aujourd'hui si elle provient d'un débris spatial ou si elle provient d'un produit d'une cause interne liée par exemple à l'électronique de bord.
Il y a eu des accidents déjà, des débris spatiaux.
Alors il y a eu un accident extrêmement spectaculaire en 2009, la collision entre le satellite Iridium 33 et le satellite Cosmos 2251, avec un satellite Iridium qui était encore opérationnel, une collision frontale entre deux satellites qui a généré des milliers de débris dont un grand nombre sont encore aujourd'hui cartographiés.
Mais c'est ça le problème, c'est que là donc il y a eu cette collision entre deux satellites et ça crée évidemment lorsqu'ils se désintègrent encore plus de débris, c'est ça le problème.
Tout à fait. Il y a un autre exemple, à la fin des années 90, un étage de fusée russe s'est désintégré. Il a généré quelques centaines de débris, donc certains ont été catalogués. Et bien en 2021, il est entré en collision avec un satellite chinois, un satellite Yunai, qui a été perdu et qui a généré à son tour d'autres débris. Donc vous voyez que les phénomènes de collision en chaîne, on y est déjà, avec des échelles de temps qui sont de l'ordre de la décennie, voire du siècle, mais on est déjà dans ce phénomène de saturation de l'environnement orbital.
Et alors, vous, chez Share MySpace, qu'est-ce que vous faites? Quel est votre job là-dedans?
Nous, on déploie une infrastructure au sol de surveillance de l'espace qui permet de monitorer, de détecter, de suivre l'ensemble des objets spatiaux, ou en tout cas les objets spatiaux jusqu'à une taille qu'on puisse détecter. Donc aujourd'hui l'état de l'art gouvernemental c'est environ 10 cm. Nous on essaye d'aller au-delà de 10 cm, descendre jusqu'à 2 cm. Ça c'est notre objectif pour 2026. Donc aujourd'hui on est autour de cette limite, autour de 9-10 cm en orbite basse, et on descend au fur et à mesure des générations de télescopes, puisque nous utilisons des systèmes optiques.
D'accord.
Pour détecter les objets en orbite.
En fait, en gros, je schématise, ce sont des super jumelles qui arrivent à voir des débris que nous on ne voit pas forcément. Où est-ce qu'il y a de la technologie, des radars, des choses comme ça? Comment ça marche?
Alors c'est de l'optique, c'est ça qui est assez beau, c'est vraiment de l'optique passive. C'est ça qu'on emploie. Par contre, il y a un système de datation qui est extrêmement important. Donc si vous avez une jumelle, vous n'allez pas être en mesure de prévoir la trajectoire de l'objet. Nous on prédit la trajectoire de ces objets qui sont à plusieurs centaines de kilomètres, qui évoluent à plusieurs kilomètres par seconde, et on fait des prédictions comme ça sur plusieurs jours.
Et vous arrivez à détecter, à savoir que tel objet provient de tel satellite, de choses comme ça, ou est-ce que au moins vous arrivez à les identifier?
Alors c'est effectivement un grand enjeu d'arriver à identifier les objets. Aujourd'hui, on repose essentiellement sur la trajectoire des objets pour les associer et associer des mesures qu'on va réaliser à des mesures qui ont été faites par d'autres précédemment.
Alors vous avez été choisi par le CNES dans le cadre de France 2030 pour répondre justement à ces enjeux de sécurité spatiale avec une première phase d'un projet de 24 mois, c'est ça, où vous allez donc installer sur Terre ces stations d'observation?
Tout à fait. Donc ce contrat avec le CNES, il est vraiment fondamental pour nous parce qu'il nous permet d'exploiter nos stations au fur et à mesure qu'on les déploie. Donc aujourd'hui, on a déjà deux petites stations en France, une petite station au Chili. On est en train d'installer une nouvelle station de future génération au Maroc dans les semaines qui viennent.
D'accord.
Et ces stations-là, elles vont fournir de la donnée au CNES dans le cadre de ce contrat. Donc avec notre client institutionnel, on a déjà une relation forte depuis 2020 qui va continuer dans les deux prochaines années et qui va continuer d'autant plus qu'au fur et à mesure du déploiement de nouvelles stations, les données vont pouvoir s'inscrire dans ce cadre contractuel. Et donc, on va pouvoir améliorer la connaissance de la situation spatiale avec le CNES.
Et donc, l'idée, c'est qu'après, vous vous disiez une démonstration de service. Ça, c'est à quel horizon?
Eh bien, la démonstration de service, c'est à l'horizon 2 ans.
D'accord.
Voilà. À la fin des 2 ans, sur le dernier trimestre, on doit être capable de démontrer un service complètement opérationnel pour pouvoir bien pérenniser notre contrat avec le CNES, tout simplement, et valider notre modèle économique.
Bon, vous allez y arriver. Il n'y a pas l'ombre d'un doute. Ça, c'est certain. Où est-ce que vous installez toutes ces stations d'observation? Il faut qu'elles soient justement en altitude, avec peu de pollution lumineuse. On se retrouve avec les mêmes problématiques qu'on a quand on observe l'espace?
Exactement. On s'installe sur des stations d'astronomie, en
voilà,
fait.
Voilà, c'est ça.
D'astronomie pour
des lieux idéaux qui ont été...
Exactement. Voilà. Et souvent, des infrastructures existent déjà. Donc nous, on identifie des prestataires dans différents pays, par exemple au Chili, où un grand nombre de télescopes sont déjà opérationnels. On s'installe au Chili, on amène notre matériel, on l'assemble, on le teste et on livre la donnée à nos clients.
Très bien. Aujourd'hui, c'est le CNES qui est intéressé par vos données, mais quel type de société peut être intéressé par ce que vous faites?
Alors, ce qui est fondamental, c'est qu'au-delà de l'infrastructure optique, on développe un système d'information spatiale qui est extrêmement puissant,
ouais.
Puisqu'il agrège l'ensemble des mesures qu'on produit, les convertit en trajectoires, permet de combiner l'ensemble des trajectoires pour détecter des rapprochements, évaluer des probabilités de collision. Et non seulement on intègre nos propres données, mais on va également être capable, enfin, on est capable d'intégrer des données de partenaires, en particulier l'US Space Force, qui délivre aujourd'hui une grande quantité de données à la communauté. Encore faut-il être capable de traiter ces informations. Donc nous, on a développé cette expertise depuis 2017. C'est pour ça qu'il a fallu quelques années pour monter en compétences, pour développer ces algorithmes. Et aujourd'hui, on est capable d'agréger les données américaines avec nos données optiques pour fournir des informations à haute valeur ajoutée à nos clients, qui sont les opérateurs de satellites, les opérateurs de services de lancement, qui opèrent des satellites, des véhicules spatiaux dans cet environnement qui est de plus en plus congestionné. Et donc, on leur permet de faire ça de manière sûre et efficace.
Voilà, et à l'aube d'un nouveau business qui est le tourisme spatial, alors même si ce n'est pas pour tout de suite, on peut imaginer aussi l'importance de votre travail. Merci beaucoup Romain. Romain Luquen, donc président et cofondateur de cette belle start-up ShareMySpace. Merci d'être passé par le plateau de Tech & Co.